Direct en jeu de Radio Insolite à Cannes, toujours pas au Palais des Festivals. Le festival n'a pas encore commencé. Alors je vais être honnête, hein, vu le programme qu'il y a depuis une semaine, j'aimerais bien qu'il commence le festival, que ça se calme un tout petit peu. Et alors attention, je suis avec... Je ne sais pas si je dois le vouvoyer ou le tutoyer, qu'est-ce que je dois faire?
Moi j'irai-tu Alain, direct. Tu es venu sur mon bateau l'autre jour, alors on va pas faire semblant, hein, on va dire tu. Allez, vas-y.
Mais si tu dis tu Alain, moi je te réponds tu Eric à ce moment-là.
Bon alors on va te dire... On va se tutoyer, allez go.
C'est parti.
Bon Eric, si je devais te présenter, je dirais que tu es un jeune homme de 18 ans, avec quelques poussières derrière.
Ouais, faut mettre les chiffres à l'envers, hein. Je dirais plutôt 71.
Non, 18 à l'envers, ça PV.
Ouais, ça faisait 17, ouais. Ça me rajeunissait, je suis désolé, vas-y.
Dis-moi, t'es un grand baroudeur, toi, t'as bourlingué un peu partout.
Oh bah écoute, ça a commencé très jeune, hein. Je suis lyonnais, hein. Tu sais, quand on est né dans le 5e arrondissement à Lyon, qu'on a été élevé à la Croix-Rousse de l'âge de 0 à 12 ans, puis qu'on se retrouve dans l'Isère un peu plus tard, puis on va sur la Côte d'Azur, on arrive dans des petites collines qui s'appelaient le Paradis, la villa de la grand-mère qui s'appelait l'Escale au Paradis. Bah, tout ça, si tu veux, ça pose le décor.
Oui, mais enfin bon, ça pose le décor malgré tout. Ça t'a jamais manqué de descendre dans le sud? Parce que bon, c'est dur dans le sud. Attends, vous avez plein de soleil, il y a plein de monde.
Oui, mais il y a la mer. C'est la mer qui m'a attiré tout gosse d'ailleurs. Mon grand-père, tu sais, il avait un canoë et kayak et il m'emmenait de Carquéran jusque sur l'île de Porquerolles dans son canoë et kayak. Et ça, je peux te dire que j'en ai vu des vagues, j'en ai vu un peu de toutes les hauteurs et de toutes les couleurs.
Bon, pied marin sans problème donc.
Oh bah écoute, j'ai d'abord eu, tu sais, une existence tout à fait banale à l'intérieur des terres. Et puis un jour, me voilà.
Excusez-moi, je rigole parce que j'adore quand il y a une existence un peu banale. Oui, c'est vrai que tu as une existence un peu banale.
Ouais, on va dire 1000 vies dans une vie, mais bon, c'est déjà pas mal. Et si tu veux, bah, toujours cette envie de voyager, toujours cette envie de partir, puis des croisements, des rencontres, et au fil des rencontres, et ben, on se retrouve d'un pays à un autre, et puis on assume ses rêves, on va jusqu'au bout de ses rêves, on essaye d'aller jusqu'au bout de ses rêves.
Ouais, est-ce que c'est pas le fait de se donner le droit de saisir les opportunités, de saisir sa chance?
Oui, certainement, mais je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, parce que à ce niveau-là, c'est vrai que si je te dis que j'étais dans les années 88-98 sur une île magique à Porquerolles où j'avais décidé d'acheter mon premier bateau et que je devais faire le tour du monde comme Antoine et que finalement j'ai fait le tour de l'île et que je suis resté sur cette île pendant 10 ans, bien, effectivement, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cet aventurier Ben, j'ai rencontré des belles personnes, j'ai rencontré Florence Artaud, Philippe Poupon, qui m'ont appris finalement à naviguer. Et puis ça m'a permis aussi plus tard de faire quelques traversées, comme l'Atlantique en solitaire.
Dis, c'est une interview déprime que tu es en train de me faire là. On va tous commencer à sauter par la fenêtre, là, c'est pas possible. Alors comme ça, tu te dis, allez hop, je m'achète un bateau, puis je fais le tour.
Oh bah avant, il a fallu trimer, hein, parce que tu sais, j'ai pas eu des parents qui avaient beaucoup d'argent. Hein. Mais bon, je me suis installé à mon compte à l'âge de 18 ans. J'ai pris ma petite échelle, mon éponge, et je suis allé repeindre des façades dans les rues de Lyon. Puis petit à petit, bon, j'ai eu des coups de bol, des coups de chance dans la vie, c'est comme ça. Et puis, de fil en aiguille, eh bien, bah, j'ai eu une entreprise qui a fonctionné. Et à l'âge de 19 ans, j'ai acheté une maison à mes parents, dans la Drôme d'ailleurs, dans un très joli village qui s'appelle Chantemerle-les-Blés. J'adore.
Est-ce qu'à l'époque, c'était pas plus facile?
Bah, certainement. Maintenant, quand je vois les gamins, je me demande comment ils pourraient faire cette traversée du Sahara comme j'ai fait avec des camions de 38 tonnes ou au volant d'une 504 ou d'une moto ou simplement partir longer les côtes de l'Afrique, faire la mer Rouge ou des choses comme ça. Ça devient beaucoup plus compliqué maintenant. Mais bon, ils ont d'autres rêves. Ils sont devant un écran et ils cliquent.
Oh non, il m'a pas fait ça, t'as pas osé. Bon, et puis d'un coup, tu prends un coup de calgon, tu te dis, allez hop, je vais me faire un gros plaisir, je rachète c'est pas un dinghy, c'est pas un Zodiac, c'est carrément un beau bateau, quoi.
On dira que le temps a passé et à l'âge de la retraite, d'ailleurs je n'ai jamais autant bossé que depuis que je suis à la retraite. À l'âge de la retraite, ouais, je me suis dit, ouais, j'ai envie d'acheter quelque chose de sympa et j'ai fait les petites annonces. Et puis j'ai trouvé un bateau de 30 mètres, de 82 tonnes, qui était en train de pourrir dans le port de Gênes. Et ce bateau avait une histoire. je me suis attaché à cette histoire. J'ai acheté le bateau sur un coup de tête. Bah, quelques semaines plus tard, je suis revenu avec les pieds sur terre. Quand j'ai fait les devis de réparation du bateau, je me suis dit qu'il me faut absolument un partenaire financier parce que je n'y arriverai jamais tout seul.
Alors, ce qui m'a fasciné, c'est quand tu m'as dit le prix auquel tu avais acheté le bateau, je me suis dit, mais attends, mais tout le monde flonce. Sauf qu'en effet, les travaux étaient assez conséquents.
Oui, non, il y avait d'énormes travaux. On ne va pas parler de prix, on n'est pas dans des histoires d'argent, mais enfin, c'est colossal. Quand on veut rénover, refitter un bateau de cette taille, il faut compter plus d'un million, largement plus d'un million d'euros. Donc, je ne les avais pas. Je ne les avais pas et je voyais ce bateau que j'avais acheté qui allait partir certainement à la découpe avec des antiquaires ou des choses comme ça. Puis j'ai eu, je crois que dans la vie, j'ai toujours eu une bonne étoile et j'ai croisé un partenaire financier qui a pu remettre cet argent dedans. Et on a rénové le bateau sur à peu près une période de 8 années. À savoir que ce bateau avait une histoire assez exceptionnelle. C'est un bateau sur lequel a vécu Fellini, Visconti, Mastroianni, Maria Callas, qui a vu passer pendant les vacances des personnalités comme Alain Delon, Rémi Schneider, Claude Cardinal, Sophia Loren. Je ne saurais même pas tous les citer tellement il y en a. Mais l'instigateur de toute cette histoire, c'est tout de même l'héritier de la famille Remington, un jeune homme de 22 ans qui arrive des États-Unis, qui vend sa société, société qui regroupait à peu près 4 générations de fabricants d'armes, de machines à écrire, de fer à friser, de rasoirs, les fameux rasoirs Remington. Et ce gamin, à 22 ans, il part à l'aventure en Angleterre. Et puis on lui conseille d'aller à Chilecita. Et là, en se promenant sur le port, il fait une rencontre insolite dans un bar. Il rencontre Federico Fellini, qui est en train de dessiner un storyboard dans un bar. C'est le storyboard de la Dolce Vita.
C'est fou, ça. Comment est-ce qu'on peut expliquer ta grande simplicité alors que tu as vu des têtes assez conséquentes ?
Et tu peux moi poser la question.
Comment ça se fait qu'on puisse expliquer ta si grande simplicité ? Ton humilité, quand même, alors que tu pourrais avoir la grosse tête.
Ouais, tu sais, je crois que c'est une question de nature, la simplicité. Puis l'humilité, parce que par les temps qui courent, il ne faut pas se prendre la grosse tête, ça ne sert strictement à rien du tout. Moi, j'ai eu des parents simples, j'ai eu la chance d'avoir une très très bonne éducation, et puis d'avoir plusieurs périodes, des périodes de petits bourgeois, puis des périodes de petits mouglis. Il fallait trouver des sous pour manger. Mais bon, tout ça, ça forge une vie. Et je crois que les gamins d'aujourd'hui, s'ils pouvaient se rendre compte que il faut savoir faire de tout. Il faut jamais renoncer, en tout cas. Jamais renoncer à ses rêves. Il faut foncer. T'as un truc dans la tête, il faut aller jusqu'au bout. Moi, je vais te dire, j'ai bossé. J'ai pu mettre un tout petit peu d'argent de côté. J'ai eu des hauts, j'ai eu des très bas, j'ai eu des très hauts. Et ce qui fait que cette vie a été palpitante, excitante. Et encore aujourd'hui, à 71 berges, je me régale. Je ne peux que me régaler. Et puis les rencontres. Moi, j'ai une chance extraordinaire. Quand je suis arrivé sur cette île à Porquerolles, j'ai acheté un bateau, je voulais partir faire le tour du monde comme Antoine. Un copain que j'ai rencontré sur l'île m'a dit « Mais non, reste ici ». Puis finalement, j'y suis resté. J'ai rencontré des stars du cinéma, Mylène de Mongeau, Marc Simonon. Dans la villa de Mylène, on croisait énormément de personnages, que ce soit Anconina, que ce soit Alain Delon, que ce soit Belmondo. On croisait tout le monde. C'était presque normal. Et si tu veux, ça fait que j'ai eu cette chance de croiser tous ces gens en permanence. Ça m'a apporté, parce que tout gamin, il faut dire que tous les jeudis, le grand-père, à la Croix-Rousse, à Lyon, on était dans le cinéma muet, il mettait en route son projecteur, et on projetait sur un petit écran au fond d'un couloir, tous les films de Charlie Chaplin, tous les films de Laurel et Hardy, et ma mère m'emmenait au cinéma, Le Chanteclerc, où je crois, un jour, quand j'avais seulement 8 ans, elle m'a emmené voir La Jument Verte. Alors c'était un film interdit pour les enfants. Elle me cachait sous les sièges et moi je regardais à travers les sièges. C'était très drôle. Mais il y a eu une vaccination au 7e art, ça c'est certain.
Qu'est-ce que ça représente pour toi, le Festival de Cannes ?
Alors, le Festival de Cannes, c'est, C'est tout ce que j'aimais quand j'étais môme. Alors, on avait la chance d'avoir une télévision à la maison, une Gramont en noir et blanc, les premières avec les Catherine Langeais, Jacqueline Cora, les speakerines de l'époque, Anne-Marie Pesson et tout, etc., cinq colonnes à la une. Et j'étais fasciné par une émission. C'était Reflet de Cannes avec François Chalais. Et là, j'ai écouté cette voix, et quand j'étais minot, j'écoutais. Et je regardais les interviews de Brigitte Bardot quand elle était toute petite, 17 ans, 18 ans, et plein d'interviews, Hitchcock, dans un bar à Cannes. Alors, comme à l'âge de 16 ans, j'étais déjà un peu dégourdi, je m'étais acheté une moto. De Lyon, j'allais faire ces 300 km sur la route pour rejoindre le Festival de Cannes. Et je me promenais à l'époque.
Excuse-moi, 440, je le fais en moto. Et encore, il n'y avait pas d'autoroute à l'époque.
Ah, mais j'avais une R50 BM à l'époque. À 16 ans, j'ai passé le permis. On pouvait, alors tu vois, ça aussi, on faisait ces trucs-là à l'époque. On pouvait conduire des grosses cylindrées et tout. Enfin, quand je vis à l'époque, des fois, j'ai l'impression d'être un dinosaure.
Non, mais tu as vu la construction des permis, je suppose, toi.
Oh, peut-être pas, on va pas aller jusque là.
Le bateau,
qui s'appelait Maria del Mar, était un transport de vin qui faisait le transport du vin entre Rome, Naples et Capri. Et puis c'était en 1946, hein, il a été construit juste à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et là, bon, il a fait ce travail pendant une douzaine d'années, jusqu'à l'arrivée du John Remington, qui sur un pari avec Federico Fellini, le bateau s'appelait Maria del Mar, et il a acheté le bateau, il est allé voir le capitaine du bateau, il a mis la somme d'argent qui correspondait certainement au montant de l'achat, même supérieur au prix du bateau, vu que le capitaine lui a laissé le bateau avec les tonneaux de vin et que les marins sont partis, et que notre John Remington s'est retrouvé propriétaire de ce bateau. Il est parti en travaux pendant 3 ans, de 1958 à 1961. Mais entre-temps, son ami qu'il avait rencontré, avec lequel il avait fait ce pari pour l'achat du bateau, Federico Fellini, présente son film La Dolce Vita au Festival de Cannes et gagne la Palme d'Or. Et donc la Palme d'Or va être gravée sur la proue du bateau. Et ce bateau va servir de repère de brigand, on peut dire, au John Remington pendant 10 années, de l'âge de 22 ans jusqu'à l'âge de 33 ans, parce qu'il va mourir à l'âge de 33 ans. Mais quel défilé. 3650 nuits de fête, c'est énorme. Alors on y retrouve bien entendu toutes les stars du cinéma qui ont défilé à bord du bateau pour faire la fête. Mais une star mondiale de l'opéra a été présentée au John Remington par Luchino Visconti en 1962, juste avant la présentation du film Le Guépard au Festival de Cannes. Et cette jeune cantatrice était Maria Callas. Donc Maria Callas a hanté le bateau et est venue chanter plusieurs fois sur le bateau quand elle allait à Rome ou qu'elle allait à la Scala de Milan. Elle s'arrêtait pour voir son jeune ami Remington et elle faisait ses vocalises à bord du bateau. Tant et si bien que, si tu veux, les riverains, quand elle avait fini ses vocalises, applaudissaient à tout rompre sur le quai. Et le bateau est surnommé la Divina. D'ailleurs, dans Il Journal, un journal italien, il y a des articles qui rappellent tout ça.
Alors, ce qui est assez génial, c'est que ce n'est pas un musée. C'est un bateau qui est fonctionnel, toujours aujourd'hui.
Complètement. On est allé en Corse l'année dernière. On fait beaucoup de choses. On est en partenariat avec la ville de Cannes pour toutes les manifestations à titre caritatif, bien entendu. Et ce bateau navigue très, très bien. On l'a vraiment... On l'a retapé à l'identique. Hein. Tout est d'origine à bord. Sauf les deux mâts qu'on a fait fabriquer au Danemark. Ouais, au Danemark. Et on les a refait complètement à l'identique. Et tout. Mais tout est d'époque, hein, à l'intérieur. On y trouve des objets insolites, comme une cafetière Pavoni 1960, qui a été offerte par Fellini à Marcello Mastroianni quand il a gagné la Dolce Vita. Puis plein de photos inédites, des objets. J'ai même un sac à main de Anita Edberg.
J'aimerais que tu me parles d'un projet qui m'a énormément touché. C'est un projet que tu vas faire au mois de juillet.
Oui, au mois de juillet, avec mon ami Claude-Nicole Martineau, qui est la présidente de Cannes en héritage. Moi-même, je suis président. Tu vois, je n'ai pas le temps de m'ennuyer d'International Cannes Yachting Ambassadeur. Et là, ça regroupe, si tu veux, des capitaines, des propriétaires de bateaux sur la ville de Cannes. Et là, on a une très très belle initiative. Claude Martineau avait, il y a quelques années, lancé la croisière des guerrières pour faire une croisière de 4 jours accompagnée de médecins à bord de 5 ou 6 voiliers et faire, si tu veux, cette croisière pour leur redonner l'envie, redonner le goût à ces jeunes filles anorexiques, des jeunes filles qui ont énormément souffert. Et puis Claude après le Covid, a un petit peu lâché. Également, Xavier Pomereau, qui était le médecin en chef, si tu veux, de l'expédition, a été malade. C'est l'ancien médecin qui était sur France 2, d'ailleurs, Xavier. Et je me suis dit, pourquoi ne pas relancer la croisière des guerrières ? Il y a tellement de lettres de reconnaissance de toutes ces gamines qui étaient au bord du drame, finalement, et qui remercient Claude d'une manière tellement touchante que je lui dis, allez hop, je te donne un coup de main, on va continuer cette belle aventure. Cette année, d'ailleurs, on a la chance d'avoir Véronique Jeannot comme marraine pour la nouvelle édition 2026.
Si les auditeurs ont envie de faire quelque chose, ils peuvent faire un don, ils peuvent faire quelque chose ?
Oui, tout est possible. Il faut aller sur le site de Cannes en héritage. C'est possible également sur le site de l'ICYK. Et bien entendu, tu penses bien que ça coûte de l'argent pour organiser un truc comme ça. Et tout ce qui reste, on va dire, de l'argent, sera redonné pour l'année prochaine pour pouvoir continuer l'aventure.
Bon, toi, qui es un petit jeune ado pubère, tu as encore des rêves ?
Ah, si tu savais ! Je préfère même pas en parler. En 2021, j'avais un morceau de carton et une paire de ciseaux avec un pistolet à colle. Et j'ai commencé à dessiner la coque d'un bateau. Et je suis allé voir mon ami Nicolas Forou, architecte naval, et je lui ai dit, écoute, est-ce que tu pourrais me faire quelque chose de beau avec ce que je t'amène ? Il regarde ma sculpture de carton sous tous les angles et il me dit, mais c'est génial, on va faire quelque chose. Et ainsi, on a créé, avec Dan Clifford, un designer, H2R Evolution, qui est un bateau laboratoire zéro émission de carbone. Alors tu vois, si j'y arrive, ça serait assez génial, parce que moi, j'ai été élevé avec la Calypso, j'ai été élevé au monde du silence, d'ailleurs, palme d'or d'un festival de Cannes. Et j'ai été élevé avec l'encyclopédie Cousteau. Et je me disais, bon, bah, après l'aventure Remington, il faudra peut-être que je me repose. Et pour me reposer, la seule idée que j'ai pu trouver, c'est de construire un bateau. Et j'avais trouvé l'investisseur qui, malheureusement, est décédé d'un AVC quelques semaines avant les signatures de contrat. Donc, il y avait le chantier naval en Italie, mais ça n'a pas pu se faire. Il y a eu le Covid qui est arrivé derrière. Sacré Covid. Et puis voilà, maintenant... je cherche toujours les investisseurs, c'est toujours la même chose, c'est toute une question d'argent. Mais après, bon, si tu veux, il y aurait possibilité de faire de très belles choses avec ça. Tu sais, Cousteau, ça a pris un peu de la poussière, hein, c'est normal. Mais si on mettait ça au goût du jour, avec un bateau zéro émission de carbone, propulsion à hydrogène et quelques autres biocarburants, multi-énergie, je pense qu'on pourrait faire de super documentaires pour la télévision.
On n'a pas besoin d'aller dans la station spatiale orbitale, hein. On peut rester sur Terre directement et sur l'eau.
Ah, ne me dis pas ça. Quand j'ai vu, quand ils sont allés tourner autour de la Lune, il y a une semaine ou deux, je regardais cette planète bleue, je me disais, mais qu'est-ce qu'on a sur cette planète ? Mais qu'est-ce qu'on a à se taper tous les uns sur les autres, alors que c'est si beau ? Mais que c'est si beau quand on voit cette petite boule bleue perdue dans l'espace, dans toute cette noirceur de l'univers, avec toutes ces étoiles. Mais pourquoi on en est encore à se taper dessus les uns les autres ? C'est complètement débile.
T'es génial. Je te remercie.
Merci à toi, Alain.